Chapitre 54. Malgré son épuisement, après des semaines entières passées à chevaucher, Callan fut stupéfié par ce qu'elle aperçut dans le lointain, au-delà de l'interminable colonne de soldats de l'ordre et de chariots. Au bout d'une vaste plaine, sur un haut plateau, se dressait un palais largement de la taille d'une cité. À la lumière voilée du crépuscule, les murs de marbre ou de pierre d'une incroyable quantité de bâtiments brillaient faiblement, comme pour guider les visiteurs en quête d'un abri par une de ces nuits plutôt froides et rudes qui caractérisaient l'approche de l'arrière-saison. Après des jours et des jours à ne voir que des guerriers d'humeur maussade ou vindicative, découvrir une telle beauté était une expérience d'une intensité quasiment mystique. Que des soudards aux approcher de ce temple de la vie indigna Callan, soudain honteuse d'avancer au sein de la vermine qui prévoyait de profaner ce sanctuaire comme les dizaines d'autres qu'elle avait trouvées sur son chemin. La seule vue de ce palais lui serrait le cœur. Même si elle ne se souvenait pas d'y avoir été par le passé, quelque chose lui soufflait que c'était pourtant le cas. Autour de la prisonnière retentissait le vacarme habituel que produit une armée en campagne. Pour la première fois, Callan songea qu'il s'agissait en fait des cris de la bête immonde venue massacrer impitoyablement tout ce qui était beau et bon. Comme pour confirmer cette hypothèse, une ignoble puanteur montait de la masse d'hommes et d'animaux qui avançait inexorablement vers le palais. Si inutile qu'il fût, cet indice supplémentaire rappelait à quel point les combattants de l'ordre étaient corrompus et pourris. Les gardes spéciaux chevauchaient sur les flancs de Callan. Depuis des semaines, il la surveillait étroitement. Au nombre de 43, ces hommes n'avaient qu'un point commun. Ils voyaient la prisonnière. Pour se distraire, et parce que ça pouvait se révéler utile un jour, Callan passait le plus clair de son temps à observer attentivement ces hommes. Désormais, elle savait lesquels étaient maladroits ou stupides, et elle avait également recensé ceux qui savaient se battre et qui faisaient à l'occasion montre d'intelligence. Comme une sorte de jeu, alors qu'elle chevauchait, Callan réfléchissait à la meilleure manière d'assassiner chacun de ces fâcheux, avec pour but ultime de les envoyer tous dans le royaume des morts. Un projet ambitieux pour l'instant différé. Depuis le fameux soir, devant le pavillon de Jagang, Callan n'avait plus pris l'ombre d'une vie. Si elle voulait s'en sortir un jour, avait-elle compris, la meilleure tactique était de se montrer docile et obéissante. Tous ces hommes ayant été fermement avertis que Callan appartenait à Jagang, aucun n'aurait posé une main sur elle sauf pour l'empêcher de s'évader. La stratégie de la prisonnière consistait à se fondre dans la grisaille du quotidien. Si ses gardes privés la prenaient pour une pauvre femme inoffensive et peureuse, ils l'assimileraient très vite aux innombrables corvées qui marquaient la vie quotidienne des militaires. Callan avait eu une multitude d'occasions d'abattre l'un ou l'autre de ses anges gardiens. Elle ne s'était jamais laissée aller à les saisir au vol, même si l'opération, avec des victimes si bêtes, aurait été un tir aux pigeons des plus réjouissants. Mais qui aurait-elle gagné? À part inciter Jagang à utiliser le collier ou ses poings pour la punir. L'empereur n'avait en règle générale pas besoin d'un prétexte pour s'acharner sur sa prisonnière. Ce n'était pas une raison pour lui tendre la perche. Si la vigilance des gardes se relâchait, celle de Jagang restait constamment au maximum. Trop fin pour commettre l'erreur de la sous-estimer, il semblait fasciné par ses faits et gestes et la mise en application de ses diverses tactiques, oui, même quand elles consistaient à ne rien dire, à ne rien faire et à attendre que le temps veuille bien passer. Comme Callan, Jagang disposait d'une inépuisable réserve de patience. Ne baissant jamais sa garde devant la prisonnière, il semblait avoir parfaitement compris ce qu'elle tentait de faire. Callan ignorait superbement l'empereur. S'il avait saisi que sa passivité visait à endormir la vigilance des gardes, il ne pouvait rien faire pour empêcher que ça arrive. À force de guetter un orage qui n'éclatait jamais, on finissait par se fatiguer. Du coup, on se faisait surprendre par la pluie. Même si Jagang avait percé à jour le plan de sa proie, il ne pourrait pas non plus s'empêcher, au fil des semaines et des mois, de se sentir moins menacé par son étrange prisonnière. Le jour venu, cette infinitésimale faiblesse risquait de coûter cher au maître de l'ordre. Bien entendu, cette façon de faire avait ses limites. De temps en temps, Kalan ne pouvait plus jouer la comédie de l'indifférence. Quand Jagang était d'humeur médiocre, un rien suffisait à le faire exploser, et il se défoulait volontiers sur sa captive, la battant jusqu'au sang. Deux fois déjà, une sœur avait dû intervenir d'urgence pour sauver Kalan de justesse. Et s'il n'y avait eu que les coups? Quand il avait vraiment besoin de se passer les nerfs sur quelqu'un, l'empereur se révélait d'une impressionnante inventivité. Expert dans l'art de torturer une femme, il était particulièrement épris de tout ce qui touchait à l'humiliation. Qu'il frappe ou qu'il humilie, Jagang ne s'arrêtait jamais avant d'avoir arraché des sanglots à sa victime. Kalan se retenait toujours le plus longtemps possible, lâchant l'abonde à ses larmes lorsque la douleur, qu'elle fût physique ou morale, devenait insupportable. Jagang se grisait de ses instants de triomphe. Conscient que Kalan ne craquait pas pour que son calvaire cesse, mais parce qu'elle était à bout de force, son tortionnaire savourait tout particulièrement chacune de ses inévitables et perverses victoires. Certains soirs, il faisait venir une ou plusieurs femmes sous le pavillon. Alors que Kalan devait rester sur sa peau de bête près du lit comme un animal domestique, son maître s'amusait avec des prisonnières mortes de peur qui auraient donné 10 ans de leur vie pour être ailleurs. En esthète de la torture, Jagang commençait par les frapper avant de leur faire subir les outrages qu'il avait en tête ce soir-là. Lorsqu'ils s'endormaient enfin, Kalan se chargeait de consoler là où les victimes de ces débordements bestiaux. Jagang prenait sans doute du plaisir à terroriser et violer de pauvres filles, mais c'était un bonus pour ainsi dire, car son objectif restait de montrer à Kalan ce qu'il attendait dès qu'elle aurait recouvré la mémoire. La prisonnière espérait que ce jour n'arriverait jamais, car la fin de l'amnésie marquerait le début d'un indescriptible calvaire. Revenant au présent, Kalan songea que la fin du voyage, puisque l'armée avait atteint sa destination, laisserait plus de temps pour les compétitions de Jala. En toute logique, il y aurait des tournois et, avec un peu de chance, Jagang leur accorderait trop d'attention pour pouvoir martyriser correctement sa victime favorite. Bien entendu, elle devrait l'accompagner, mais ça lui épargnerait au moins d'être seule avec son bourreau. Lorsqu'elle arriva dans le premier cercle où on avait, comme d'habitude, déjà érigé le pavillon de l'empereur, Kalan s'étonna que le camp soit si loin du palais du peuple, qui semblait pourtant à quelques heures de cheval au maximum. Elle ne demanda pas pourquoi il en était ainsi, mais elle le découvrit très vite pendant la brève réunion entre Jagang et ses officiers supérieurs.
« Toutes les sœurs devront être de garde cette nuit, » ordonna l'empereur. « De si près, qui peut savoir le mauvais tour à base de magie que nous réserve l'ennemi ?»
Armina et Ulysia, qui traînaient dans le coin, accueillirent cet ordre avec un soulagement visible. Devoir jouer les sentinelles les dispenserait de servir sous les tentes. Après des semaines passées à divertir les soldats de l'ordre, les deux sœurs semblaient avoir vieilli de 10 ans. Naguère attirantes, chacune à sa façon, elles avaient perdu leur charme et leur beauté. Dans le regard d'Armina, on lisait une profonde stupéfaction, comme si elle ne parvenait pas à assimiler qu'elle était tombée si bas. Les yeux cernés d'Ulysia n'exprimaient plus rien, à croire que son âme avait déserté ce qui restait de son corps. Les cheveux en bataille, les vêtements en lambeaux, puantes à force de transpirer sans pouvoir se laver, les deux sœurs sortaient chaque matin des tentes avec de nouvelles contusions et d'inguérissables plaies à l'âme. Mais si elles détestaient voir souffrir les gens, Kalan n'éprouvait aucune sympathie pour les deux harpies qu'il avait privées de sa mémoire avant de la livrer, sans le vouloir, à l'homme le plus cruel du monde. La situation était limpide. Dès qu'elle aurait recouvré la mémoire, Jagang la violerait et l'engrosserait. Elle porterait son fils, il en avait la certitude. Et quand elle saurait qui elle était, ajoutait-il souvent, elle comprendrait pourquoi la chair de sa chair, dans ces conditions, lui paraîtrait encore plus monstrueuse que son violeur. Avec tout ça, Kalan estimait que servir sous les tentes était une punition trop douce pour Ulysia et Armina. Par bribes, la prisonnière avait pu reconstituer le plan qu'avaient ourdi les deux servantes du gardien. Le sort qu'elle réservait à l'humanité tout entière interdisait qu'on éprouve une ombre de pitié pour elle. Cela dit, si elle avait pu décider, Kalan les aurait simplement fait mettre à mort. Lorsqu'un être ne méritait plus de vivre, l'exécuter proprement et rapidement suffisait, car il y avait dans la torture une dimension perverse incompatible avec la notion de justice. Les sœurs complotaient contre la vie. Cela suffisait à les en exclure radicalement. Mais à cette aune-là, toute l'armée de l'ordre aurait dû monter sur l'échafaud. Si Jagang y grimpait un jour, qu'Alan s'en contenterait, ça ne faisait pas de doute dans son esprit.
« Leur armée a fui, Excellence !»
dit un officier à Jagang pendant qu'un garçon d'écurie prenait soin de son cheval et de la jument de Kalan.
« C'est déjà ça de gagné !»
L'homme avait perdu la moitié d'une oreille au combat. Mal soigné, le moignon de l'aube, particulièrement hideux, attirait irrésistiblement le regard. Plus d'un homme avait perdu une oreille pour s'être montré incapable de détourner les yeux assez vite.
« Il n'y a plus de défenseurs au palais !»
dit un autre officier.
« À part des pratiquants de la magie !»
le corrigea Jagang.
« Mais un pareil obstacle ne nous arrêtera sûrement pas. »
Selon les éclaireurs et les espions, la route extérieure est trop étroite pour une attaque massive, sans parler d'une série de ponts-levis qui serait très difficile à franchir et nous coûterait cher en matière d'hommes et de matériel. La grande porte au pied du haut plateau a été fermée. Aucun officier n'espère que nous la briserons, car au fil des siècles, elle a toujours tenu bon face à des envahisseurs. Pour finir, nos forces magiques signalent que leur pouvoir faiblit à proximité du palais.
Jagang eut un petit sourire.
Sur ce point précis, j'ai quelques idées.
Nous n'en doutions pas, Excellence,
susurra l'homme à la demi-oreille. Alors que Jagang et ses officiers conversaient, Kalan remarqua que des cavaliers traversaient le camp au galop. Venant du sud, ils s'arrêtaient à peine au point de contrôle, juste le temps en fait de lancer quelques mots aux sentinelles. Jagang remarqua très vite les cavaliers. La réunion informelle étant terminée, ses officiers et lui regardèrent les hommes franchir l'avant-dernière ligne de défense du premier cercle, tirer en catastrophe sur les rênes de leur monture et sauter à terre avant même que celle-ci soit parfaitement immobile. Dès que Jagang leur eut fait signe qu'il n'y avait pas de problème, les gardes d'élite laissèrent passer les messagers, qui continuèrent au pas de course malgré leur visible épuisement. Leur chef, un type d'âge mûr, sec comme une trique, salua dignement l'empereur.
« Qu'y a-t-il de si urgent ?»
demanda celui-ci.
« Excellence, des villes de l'Ancien Monde ont été attaquées.
C'est tout ?» Encore les insurgés, pour la plupart originaires d'Altarang, ils sont toujours en vie?
Non, Excellence, ils ne sont pour rien là-dedans, même s'ils continuent à nous harceler, obéissant aux ordres du mystérieux forgeron. Dans le cas qui nous occupe, trop de villes ont été attaquées pour que ce soit les insurgés.
Quelles cités sont concernées?
Demanda Jagang. L'homme sortit une feuille de parchemin de sous sa chemise.
« Voilà le début de liste que nous avons établi. »«
Le début ?»«
Oui, Excellence. Selon nos informations, la violence se répand dans tout l'Ancien Monde. »
Kalan regarda du coin de l'œil le document que consultait Jagang. Deux colonnes de noms, voilà qui devait faire une quarantaine de cités.
« Se répand dans tout l'Ancien Monde, dis-tu ? » Ces cités sont éparpillées sur tout notre territoire. Je ne vois pas de logique dans cette expansion.
C'est bien le problème, Excellence. L'incendie prend un peu partout.
De l'exagération, j'en suis sûr. Prenons Takamar, par exemple. Cette ville aurait été attaquée? Par quelle bande de crétins, s'il te plaît? Takamar est une plaque tournante pour nos convois de vivres et d'équipements. Il y a une énorme garnison et des défenses très sophistiquées. Des frères de l'ordre y sont affectés, et ils n'auraient certainement pas laissé la populace en faire à sa tête dans les rues de Takamar. Ce que tu nommes des rapports est l'œuvre d'un aéropage d'imbéciles qui ont peur de leur ombre.
Excellence, je suis passé à Takamar après la catastrophe.
Et qu'as-tu vu? Parle plus vite que ça.
Le long de toutes les routes qui mènent à la ville, des crânes carbonisés sont fichés sur des pics.
Combien de crânes? Une dizaine? 100 au maximum?
Excellence, il faut plutôt parler de milliers, voire de dizaines de milliers.
La cité n'existe plus.
Comment ça, elle n'existe plus?
Misasak est incendié, Excellence. Il ne reste pas un bâtiment debout, et on ne pourra même pas récupérer les poutres parce qu'elles sont réduites en cendres. Sur les collines, tous les vergers ont été saccagés. Les champs de céréales, sur une bonne lieue à la ronde, ont été incendiés. Ensuite, on a salé la terre pour que plus rien ne repousse. On dirait l'œuvre du gardien en personne.
Et les soldats, qu'ont-ils fait pour empêcher ça?
Les crânes étaient les leurs, Excellence. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de survivants.
Jagang regarda Kalan comme si elle était responsable de ce désastre. Puis il froissa le message dans son poing et riva son regard noir sur le messager.
« Et les frères de l'ordre, t'ont-ils dit ce qui est arrivé et pourquoi ils n'ont rien pu faire ?»«
Il y en avait 6 à Takamar, Excellence. On les a retrouvés empalés sur des pics aux 4 coins de la ville. Tous étaient écorchés du front jusqu'au cou. Afin qu'on puisse les identifier, on leur avait laissé leurs calottes. Les civils qui ont fui la cité racontent que l'attaque s'est produite de nuit. Malgré leur terreur, ils nous ont fourni une précieuse information. Sans nul doute possible, les agresseurs étaient des soldats de l'Empire Daran. C'est une absolue certitude. Les Daran ont épargné tous les civils qui ne tentaient pas de résister, et ils les ont chargés de nous délivrer un message. À partir de maintenant, la vie va devenir insupportable pour tous ceux qui soutiennent l'ordre dans l'Ancien Monde. Ces chiens ont affirmé aux civils que l'ordre impérial est responsable de la catastrophe qui s'abattait sur eux. Ils ont ajouté que ça ne faisait que commencer. Les partisans de l'ordre, paraît-il, ne seront plus en sécurité nulle part, y compris dans les coins les plus sombres du royaume des morts. Abdiquer notre foi ou mourir, voilà le choix que nous laissent les bouchers d'Aran.
Lorsque Kalan s'avisa qu'elle souriait, il était trop tard pour éviter la gifle de Jagang qui l'envoya s'étaler dans la poussière. Ce soir, il la battrait comme plâtre, c'était certain. Eh bien, elle s'en fichait. Ravie d'avoir entendu d'excellentes nouvelles, elle continua à sourire.